On me demande souvent, c'est quoi l'entrepreneuriat ? Bah pour ça, quoi de mieux que de demander l'avis à d'autres entrepreneurs ? Pour cette deuxième saison du podcast « Mes premières fois dans l'entrepreneuriat », vous allez découvrir sans tabou et avec authenticité les vraies coulisses des entrepreneurs qui se battent pour faire exister leur entreprise. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! Et avant de démarrer, les amis, si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur. Merci d'avance, c'est parti pour l'épisode.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous l'entendez un petit peu à ma voix, j'ai chopé le rhume de ma fille de 19 mois que j'aime, par-dessus tout. Mais aujourd'hui, j'allais accueillir une invitée, Juliette Cadeau. Donc forcément, je n'allais pas annuler, je n'allais pas repousser. Juliette Cadeau, elle est entrepreneuse dans la communication. Juliette, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Dis-nous qui tu es et présente-toi un peu plus en détail.
Bonjour Alexandre, déjà merci beaucoup de m'avoir invité. Moi je suis donc Juliette Cadeau, je suis à la tête de mon agence de communication qui s'appelle Cadeau, comme moi, puisque quand on a un nom pareil, pourquoi pas, pourquoi s'en priver ? Et j'ai à côté de ça deux autres projets d'entreprise qui sont en cours là en ce moment, donc c'est pour ça que je me définis comme une entrepreneuse dans la communication parce que je n'ai pas l'intention de m'arrêter à cette seule agence. En tout cas, mon agence et moi-même sommes spécialisés dans la création de contenu et la stratégie de contenu. On propose à nos clients d'atteindre leurs objectifs business grâce à de la communication, ce que l'on appelle de l'inbound marketing. Donc, c'est transformer son entreprise un peu comme un média en prenant la parole sur différents canaux, notamment les réseaux sociaux.
Top, extrêmement clair cette présentation. Je reviens sur ton nom de famille, pas pour être lourd, mais j'imagine qu'il y en a beaucoup qui l'ont été, en tout cas avec ton nom. Est-ce que ça t'est arrivé que tu aies des clients, des prospects qui négocient, qui demandent un petit geste en disant « Est-ce que tu me ferais pas un petit cadeau ?»
Alors, clients et prospects qui m'ont fait des petites blagues, oui, bien sûr, pas plus tard que ce matin encore, mais qui en profitent pour demander des ristournes, non.
Ok, donc c'est juste une blague, sous le ton de l'humour, on se sert un petit peu du nom qui est pas commun, qui fait plaisir à tout le monde le 24, à Noël, mais bon, dans la vie, on n'attend pas que Noël pour se faire des cadeaux, on est d'accord, c'est un peu tous les jours les cadeaux.
Tout à fait, non mais effectivement, après moi je suis très à l'aise avec mon nom. Quand j'étais petite, j'en avais un peu plus honte. Maintenant, je l'aime bien et je suis la première à faire des jeux de mots avec, etc. Là-dessus, j'ai aucun problème.
C'est ça qui est vachement bien, c'est de jouer un petit peu de ces noms. Tu vois, moi, c'est Ferrero comme les chocolats. Mmh. Donc, forcément, Ferrero Rocher. Enfin, il y a d'autres marques d'ailleurs qui ont pris le dessus. Hein. Il y a le couscous maintenant. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais c'est pas prêt de s'arrêter. Ce que je veux dire, c'est que toi, tu en joues aussi. Le cadeau, tu as un petit émoticône cadeau, si je ne me trompe pas, sur ton profil LinkedIn. Donc, je trouve ça bien d'en jouer. Bon, après, tu as des noms de famille un petit peu plus compliqués à gérer. Mais ce que je veux dire par là, c'est toujours bien de s'en amuser.
C'est même le logo de mon entreprise, moi. Donc, effectivement, je l'ai poussé à fond.
Génial. OK, tu exploites justement le truc jusqu'au bout. Tu connais le concept du podcast. On va retracer un petit peu ton parcours entrepreneurial sous forme de première fois. On va en aborder 5 au total ensemble. Notamment ta première, justement, on parlait des réseaux. C'est la première fois où tu t'es montré sur les réseaux. Tu as décidé un petit peu de communiquer sur toi. Et là, tu vas nous expliquer un petit peu comment ça a été justement perçu pour toi au départ de gérer ton image, gérer l'image de soi.
Ouais, c'est un vaste sujet parce qu'en fait, je fais partie de ces personnes qui sont très peu à l'aise avec leur image. Donc moi, il faut savoir que je me suis lancée en janvier 2022 à fond sur LinkedIn et que jusqu'au mois de... Ouais, je pense même un an, parce que je crois que presque un an, en décembre, un truc comme ça, décembre 2022, c'est là où j'ai posté une photo de moi de dos. Mais sinon, et après, j'ai posté une photo pour les vœux, etc., de 2023, en disant, ma résolution de cette année, ce sera de me montrer plus. Et j'utilisais toujours les trois mêmes photos, etc., que j'avais pris en selfie chez moi, que je maîtrisais parfaitement, mais sinon, en fait, je ne mettais aucune photo. J'étais très admirative de tous les gens sur LinkedIn qui mettaient des photos régulièrement d'eux, qui se mettaient même en scène dans des carousels, etc., etc. J'ai essayé de le faire, j'étais très, très peu à l'aise avec ça. Et en fait, je me souviens que je pense que ça devait être avec elle et plus d'autres personnes, mais j'en ai parlé beaucoup avec Mélissa Ousmani, qui est aujourd'hui mon associée sur une de mes autres boîtes et qui en plus est une de mes amies proches, qui elle se montrait, n'avait pas de problème avec son image, etc. En même temps, quelle belle femme, elle a bien raison. Et du coup, elle m'a poussée un petit peu, etc. Et c'est là où j'ai commencé à en discuter et surtout à mettre le doigt sur le fait que je me montrais pas parce qu'en fait, c'était pas un problème de vouloir rester anonyme, c'était un problème de mon image à moi-même. Et c'est pas par rapport aux autres, à ce que je pense les autres, c'est de moi, de me confronter à mon image. Donc effectivement, ça a été beaucoup de premières fois, hein, beaucoup de premières fois de réconciliation de mon image, beaucoup de premières fois de me faire prendre en photo aussi par des photographes. Je pars quand même d'une personne, j'étais à la base cette personne qui ne supportait pas la moindre photo d'elle qui n'était pas prise en selfie. J'avais posté des selfies, etc., sur mes comptes Insta, tout ce que tu veux. Mais je ne supportais pas les photos que je ne maîtrisais pas. Et je pouvais en pleurer que de me voir en photo par rapport à ce que je voyais dans la glace, où je me disais, bon, bah, les autres voient ce que je vois dans la glace, ça va. Mais si les autres voient ce que je vois en photo, mon Dieu, mais quelle horreur. Et du coup, j'en ai discuté avec ma psy, hein, bien évidemment, et en fait je fais ce qu'on appelle la dysmorphophobie. Donc c'est la peur c'est en gros avoir une image un peu déformée, même complètement déformée de soi-même. Et ça peut aller, ce qui était mon cas, ce qui est encore un peu mon cas très honnêtement, à ne pas savoir exactement ce à quoi tu ressembles. Est-ce que tu ressembles à la personne que tu vois dans le miroir, ou est-ce que tu ressembles à la personne que tu vois en vidéo, en photo, etc.? Donc, j'ai du mal à me voir comme ça.
Je ne savais même pas, tu vois, qu'il y avait un mot pour ça, en tout cas, qu'il y avait vraiment une phobie attitrée à tout ça. Et c'est super intéressant que tu en parles, parce que tu as plein de gens, je pense, qui ont envie de se montrer, bah, pour notamment parler de leur activité, montrer leur service. En général, quand tu mets des photos toi, forcément, entre guillemets, c'est un petit peu plus vendeur. Ce que je veux dire, c'est que ça permet vraiment de montrer qui on est. Toi, on comprend justement à travers ton récit, ton parcours, que ça a dû être un long travail, une longue bataille même, pour justement passer outre tout ça. Donc, ce que tu maîtrises, quelque part, il n'y a pas de problème. Mais tu fais attention un petit peu à la perception que peuvent avoir les autres, mais c'est même pas prioritaire, c'est surtout la perception de toi-même qui est problématique, en fait.
Ouais, c'est un truc que je dis tout le temps, moi, là-dessus, c'est que, bon, comme beaucoup de personnes, je suis une personne tout en contradiction, c'est-à-dire que j'oscille entre une grosse confiance en moi, et j'ai confiance en moi, tu me vois en vrai, j'ai confiance en moi, j'ai pas peur des autres, etc., mais à côté de ça, avec de grosses faiblesses comme celle-ci. Et ce que je dis régulièrement, c'est que moi, j'ai rien à prouver à personne, sauf à moi. C'est uniquement à moi-même que j'ai des... auprès de laquelle j'ai des complexes, donc ça c'est le gros problème. Et effectivement, comme tu le dis, Alexandre, et c'est là où ma discussion avec Mélissa a fait un peu mouche, j'ai commencé à débloquer tout ça, c'est qu'en fait, comme tu le dis très bien, si tu veux vendre, et pour mieux vendre, il est nécessaire de se montrer, notamment quand on travaille son personal branding. En fait, au bout d'un moment, les humains aiment s'adresser à des humains. Donc là, je te parle de 2022, mais je pense que c'est encore plus vrai en 2024 avec l'avènement de l'IA, où on ne sait plus qui est ce qui est sorti de ChatGPT, ou qui est sorti de la cuisse de Jupiter. Et du coup, effectivement... ça aide à vendre. Je l'ai fait effectivement pour mon business, hein, je vais pas te mentir, je vais pas te dire qu'il y avait pas d'objectifs mercantiles derrière, parce que je savais que ça allait mieux fonctionner, hein, voilà. Mais il y avait aussi beaucoup de faut que tu te reprennes en main là, c'est pas normal en fait de chialer en te voyant en photo, quoi.
Mais c'est bien, parce que justement t'as plein de gens qui se disent, faut que je sois de telle façon, faut que je corresponde, faut que je plaise à telle cible, tel genre de personne. Et au final, toi, non, c'était déjà te plaire à toi-même. Donc, c'est un super message, même si j'imagine qu'il y a eu un vrai, vrai, vrai combat, encore une fois, tous les jours. Tu l'as dit toi-même, tu travaillais ça avec ta psy, t'en parlais aussi autour de toi avec Mélissa et d'autres personnes. Mélissa, qui était d'ailleurs dans le podcast, mes premières fois dans l'entrepreneuriat, qu'on embrasse. Donc, très content aussi de savoir que vous êtes non pas que amis, vous êtes aussi associés. Ce que je veux dire, c'est que ça a été un vrai boulot, un vrai taf. Et qu'est-ce que tu conseillerais du coup à une personne qui a envie de se lancer, commencer à faire sa communication sur les réseaux, qui n'est pas forcément à l'aise avec soi-même? Alors peut-être pas comme toi, parce que toi c'est vraiment phobique, de ce que j'ai cru comprendre, mais qui n'ose pas encore se montrer, qui a peur d'être jugé, critiqué.
Alors moi, le conseil que je donne, parce que je fais beaucoup de coaching, et je coach beaucoup des dirigeantes femmes ou des solopreneuses, etc., et qui ont cet a priori, parce qu'en plus, on va pas se le cacher, on le sait que c'est plus difficile pour une femme sur Internet. T'es quand même constamment ramené à ton physique. Déjà, en général, on est dans une société du paraître, ce qui fait que tout le monde est ramené à son physique, mais particulièrement les femmes. Je vous invite à regarder les commentaires sous les vidéos de femmes, etc. On aura beaucoup plus de remarques sur leur physique que sous une vidéo d'un homme, voilà. Mais par rapport à tout ça, moi, c'est ce que je leur dis à chaque fois, c'est que il faut accepter. C'est-à-dire que il faut accepter que si l'on prend, en fait, c'est ce que je dis souvent, c'est que choisir, c'est renoncer. Si on choisit de prendre ce formidable accélérateur qu'est le personal branding pour son business, on accepte tous les bons côtés, mais on accepte aussi les mauvais côtés. Donc, le fait de s'exposer, le fait de potentiellement recevoir des critiques, etc. Et dans ces cas-là, il faut bien connaître tous les tenants et les aboutissants, tous les pours et les contres, tous les avantages et inconvénients avant de se lancer. Et là, on se lance. Parce que, je peux pas vous dire que moi c'est toujours un combat hein, contre moi. Récemment, j'ai encore envoyé un message à la personne qui produit mes vidéos. Je lui ai dit alors la dernière vidéo, je me trouve horrible dessus. Les autres vidéos ça va, mais alors celle-là, elle est terrible. Vraiment, je la déteste. Voilà. Et en fait, c'est un combat de tous les jours. Hein. Donc il faut juste avoir. Pour moi, en fait, je peux pas vous faire un motivational speech avec des grandes phrases, etc. Il faut aussi. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Il faut aussi être pragmatique. S'exposer sur les réseaux, ça apporte beaucoup, mais ça prend beaucoup aussi. Donc, être conscient, en fait, de tout ce que ça va apporter et de ce que ça va prendre, et dans ces cas-là, faire ses choix éclairés. Pour quelqu'un qui serait comme moi, ou alors quelqu'un qui serait timide, je dirais d'y aller petit à petit, hein, petit pas par petit pas. On commence pas tout de suite à faire une vidéo, etc., alors qu'on a du mal avec son élocution, sa voix, etc. En revanche, je conseillerais aussi, et moi c'est la manière dont je fonctionne, c'est un peu le baptême du feu, c'est-à-dire que si t'as pas envie d'y aller, et bah t'y vas encore plus fort avec un gros coup de pied au cul, parce que si jamais tu te lances pas, il y a personne qui le fera pour toi. Et j'en parle aussi de ça, parce que en fait, il y a que l'exercice et l'habitude qui va faire que tu vas de plus en plus t'accepter. J'y pense aussi, ou par exemple, j'ai fait du podcast moi aussi avant, je ne supportais pas ma voix comme absolument tout le monde la première fois que je l'ai entendue sur mon répondeur téléphonique à l'époque. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai accepté ma voix en podcast. Je suis pas toujours une grande fan, mais disons que j'ai accepté ma voix en podcast. Et en fait, c'est ce qu'il faut se dire, c'est qu'aussi l'habitude va créer l'acceptation.
Ouais, c'est d'accord avec toi. Justement, ma voix, je la perds, non pas parce que je l'aime pas, enfin je l'aimais pas aussi au début, c'est un petit peu ce que tu viens de dire, c'est très intéressant, c'était très compliqué de m'entendre, j'ai dû travailler, répéter pas mal de choses. Là si j'ai un peu la voix bizarre, déformée, c'est parce que je parle du nez encore une fois que j'ai un rhume, mais c'est très difficile. Donc l'image aussi, l'image de soi, du coup s'entendre, se voir, vidéo, enfin c'est très très compliqué. Je pense que ça se travaille, c'est ce que tu as fait, tu continues de le faire, donc c'est plutôt, plutôt cool. Donc, après cet épisode-là, tu t'es lancé, tu as commencé à publier, à maîtriser un petit peu plus ton image. C'est là que les clients, j'imagine, sont apparus, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une bonne communication qui était là. Et tu as commencé à penser à recruter, si j'ai bien compris.
Ouais, tout à fait. Alors, la petite précision, j'ai eu des clients avant même de commencer à me montrer. Hein. Ça s'est fait très rapidement. Il faut savoir que je partais quand même avec une avance, c'est-à-dire que la stratégie de communication, c'était mon métier avant que je me lance sur LinkedIn. J'ai commencé ma carrière il y a 10 ans en tant que journaliste, et j'ai commencé ma carrière dans la com il y a 7 ans. Donc, j'ai quand même un peu de bouteille. Et j'ai eu des clients rapidement hein, via LinkedIn, 2 mois, un truc comme ça. Mais par contre, mes clients m'ont battu maintenant. J'ai une cliente qui a eu des clients au bout de 15 jours après l'application de ma stratégie. Je lui dis maintenant, c'est mon nouveau record. Mais ouais, du coup, donc les clients sont arrivés rapidement, avant même de me montrer, etc. Mais effectivement, ça a été un coup d'accélérateur formidable. En revanche, hein, je l'ai vu à la fois sur les demandes entrantes, mais aussi sur les propositions, également sur le nombre d'abonnés. Hein, ne serait-ce que ça, si tu suis un peu les chiffres sur LinkedIn. Toujours est-il que par rapport à la première fois où j'ai songé à recruter. Est-ce qu'on parle de la première fois où j'ai songé à déléguer ou la première fois où j'ai songé à recruter, parce que ce sont deux choses différentes?
Je suis assez d'accord avec toi. Moi, je parle vraiment de recrutement, parce que comme tu dis, déléguer, bon, c'est déjà pour un entrepreneur se dire telle chose, je la maîtrise, mais il serait intéressant que je la délègue. Ou au contraire, je ne la maîtrise pas, mais comment faire confiance justement à quelqu'un qui va s'en occuper? Donc, ça peut être un freelance, un entrepreneur ou autre. Là, je parle vraiment de recrutement, c'est-à-dire faire appel à quelqu'un à qui tu vas confier, entre guillemets, les clés de ton business. Ça, pour moi, c'est encore plus délicat.
Bah, c'est déjà un peu le cas, très honnêtement, parce qu'en fait, c'est pour ça que je te pose la question par rapport à la délégation et au recrutement. C'est qu'en fait, moi, les personnes auprès desquelles je délègue, c'est que des personnes déjà qui sont là régulièrement. Et par exemple, il y en a une qui s'appelle Alma, que je salue bien sûr. Alma, elle est, et que vous connaissez peut-être parce qu'elle est active sur LinkedIn, c'est Alma Fall. Et en fait, Alma, ça va faire 1 an qu'on bosse ensemble. Là, au moins, dans un mois, ça fera 1 an qu'on bosse ensemble. Et pendant que j'étais au Japon, elle avait les clés. Je pars bientôt en vacances, mi-mars, elle va avoir les clés. Voilà. Et en fait, il s'avère que elle fait partie des personnes que je pense recruter. Là, je suis en train de contracter, de faire des démarches pour contracter des prêts professionnels pour pouvoir recruter. Parce que ça, petit tips chez vous, c'est la compagne d'une de mes meilleures amies qui m'a partagé ça, qui a fait un stage dans la gestion, etc., d'entreprise, parce que ma meilleure amie et sa compagne lancent leur entreprise. Sophie et Clémence, je vous salue. Et je vous fais des bisous surtout. Et en fait, Clémence disait quelque chose de très à propos qui est en fait, il vaut mieux éviter de faire de la croissance sur ses fonds propres. Donc, en gros, si vous avez un besoin d'acheter des bureaux, si vous avez un besoin de recruter du monde, et je ne parle pas de déléguer et de prendre des fris, mais vraiment de recruter, essayez de le faire via un prêt professionnel. Ça vous permettra de ne pas être sur vos fonds propres avec un engagement comme un CDI ou un CDD. L'avantage d'un freelance, c'est que bah, contractuellement, si vous avez bien fait les choses, vous pouvez en fait couper son contrat quand il y a un problème de trésorerie, etc. Ça, c'était pour la partie gestion d'entreprise. Et du coup, donc, je suis en train en fait de faire les démarches justement pour contacter des prêts professionnels. Et donc, bah, c'est à partir de ce moment-là, j'ai commencé les démarches parce que je me suis fait accompagner de quelqu'un pour monter les dossiers, etc. Je dirais il y a 6 mois, quelque chose comme ça. J'en ai discuté avec un autre ami entrepreneur et qui est également mon associé sur mon troisième projet de boîte, qui est Nihal Mongamadou. Donc en gros, Nihal m'a dit, mais en fait, tu sais que tu peux demander des prêts, etc. Des prêts BPI, tout ce que tu veux, des prêts à taux zéro en tant que professionnel. Et en fait, j'en ai discuté avec le spécialiste donc des prêts en lui disant, voilà, j'aimerais contracter un prêt et potentiellement pour embaucher. Donc c'était il y a à peu près 6 mois parce que je me suis toujours vue avec des salariés, j'ai toujours pas voulu en rester là, j'ai jamais voulu rester solopreneuse, voilà, etc. Je sais pas si j'aurai une multinationale avec je sais pas combien d'employés. En tout cas, j'ai toujours voulu commencer à onboarder des personnes. Et en fait, c'est déjà un peu le cas. Donc, les personnes avec lesquelles je travaille, bah, que ce soit mon assistante Sarah ou Alma ou d'autres personnes, c'est des personnes à qui je peux confier les clés, à qui je peux confier les clients, etc. Ils le savent et donc aucun souci.
Super intéressant. Je vais être un petit peu pointilleux justement sur la partie freelance avec qui tu travailles. Et là, potentiellement, la réflexion que tu as pour les embaucher, donc en CDI ou avoir d'autres aussi candidats par la suite. Quand je dis pointilleux, c'est pour savoir si pour toi, parce que pour moi, il y a une différence quand tu travailles avec des gens, comme tu l'as très bien dit, qui sont freelance, qui savent ce qu'ils ont à faire, il n'y a pas de pression, entre guillemets. Est-ce que tu n'as pas peur ? Ce n'est pas une question piège, c'est vraiment pour avoir ton ressenti par rapport à ça, que le fait de contractualiser un petit peu tout ça sous forme de statut juridique un petit peu plus serré, entre guillemets, donc le CDI, que ça change quelque chose dans la relation?
C'est une bonne question. Oui, j'en ai peur, bien évidemment. Après, je pense que tout peut se régler avec de la discussion. Et en fait, avec la personne que je veux recruter, donc qui est en free et que je veux potentiellement recruter, tout passe à travers la discussion. C'est-à-dire qu'elle sait quand est-ce que je passe en commission pour obtenir mon prêt ou pas. Elle sait, elle connaît toutes les démarches, etc. Et on est dans une transparence totale. On va discuter de son emploi, de ma proposition. Est-ce que je lui fais une proposition à temps plein ou à temps partiel, de combien, etc. Voilà, oui, ça peut changer les. En fait, j'ai peur que ça puisse changer les relations. Et donc, c'est pour ça que je suis dans l'ultra-communication avec elle, en fait. Mais cela dit, je suis dans l'ultra-communication avec toutes les personnes avec lesquelles je bosse en free. C'est-à-dire qu'en fait, elles savent à combien je marge. Elles savent combien je prends, enfin, je facture aux clients et combien je leur donne. Et on en discute. Je leur dis, je facture tant aux clients. Est-ce que si je te donne tant, c'est OK pour toi? Voilà. L'idée, c'est, moi, je trouve qu'il y a peu de choses qui peuvent ne pas passer quand on a une bonne communication. Mais évidemment, oui, c'est un truc dont j'ai peur, bien sûr.
Que forcément, ça change un petit peu, mais après, comme tu l'as dit, puis en plus, c'est ton métier, tu es dans la communication, donc il n'y a pas de raison, quelque part, que ça se passe pas bien. Et au contraire, je te le souhaite vraiment, que tu puisses aboutir à tout ça et développer un petit peu, et que tu sois un peu cette grande entrepreneuse avec plein de salariés. Bon, même si ce n'est pas ça qui fait la richesse, c'est déjà ce que tu crées et la valeur que tu donnes au quotidien, mais si tu arrives en plus à le propager avec d'autres petits soldats, entre guillemets, ça peut être bénéfique pour tout le monde. Ok, du coup, tu as eu aussi une association, enfin plutôt une sponsorisation avec ta newsletter. Donc, ce n'était pas ta première, on l'a vu en off tous les deux. C'était donc un projet qui ne s'est pas forcément bien passé, donc c'était un échec. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi et comment justement c'est arrivé à ce niveau d'échec?
Bah, en vrai, pour le coup, pour vous expliquer un petit peu la chose, c'est que j'ai une newsletter qui aujourd'hui est sponsorisée, est occupée par un de mes clients qui est Time, qui est mon sponsor avec lequel je suis en collaboration commerciale pour plusieurs mois là ensemble sur différents supports, dont ma newsletter. Avant de discuter avec Time et de contractualiser tout ça avec eux, j'ai vu que j'avais une base de newsletter qui fonctionnait bien, qu'augmentait rapidement en termes d'abonnés, sans perdre beaucoup d'abonnés par mois, toujours avec un beau taux d'ouverture qui est compris entre 45 et 50%, etc., etc. Donc, ce qui peut être quelque chose d'intéressant pour des sponsors. Et j'ai vu que certains sponsorisaient leur newsletter, comme Maud Alaves, par exemple. Je me suis dit, c'est pas con. Et en fait, j'ai commencé à mettre en place un formulaire de contact, etc., pour sponsoriser ma newsletter. Et voilà pourquoi c'est un échec. C'est parce que j'ai eu très peu de réponses. C'est-à-dire que je le mettais à chaque fin de newsletter en disant, voilà, tu peux sponsoriser la news pour clique ici pour en savoir plus. J'avais fait une page Notion avec toutes les infos, etc., etc., les tarifs et tout. J'ai eu qu'une ou deux demandes, etc. Et vraiment, pour le coup, ça a été mon échec le plus récent, là. Et j'ai aucun problème avec ça, parce que tout ne peut pas réussir, et l'entrepreneuriat est fait d'échecs, hein, bien sûr. Voilà, ouais, c'était ça, mon dernier échec. Maintenant, c'est plus le cas, parce que Time occupe l'espace de ma newsletter, mais ça a été dealé d'une autre manière, c'est-à-dire que ce n'est pas venu par ça. Donc, en fait, c'est la manière de vendre cette sponsorisation qui est en échec. Autrement, la sponsorisation, j'avais bien réussi à la vendre, puisque j'ai commencé à travailler avec Time, mais cette manière de faire avec le formulaire, etc., vraiment un pétard mouillé.
Ok, et c'est bien d'en parler, je trouve ça cool, parce que justement, comme tu dis, même si tu es en place depuis un petit moment, tu maîtrises la stratégie de la communication, tu te lances vers quelque chose de nouveau, ça marche pas, comme tu dis, pétard mouillé, bon, c'est pas grave, est-ce que ça veut dire qu'on va tout arrêter? Non, on continue. Mais ce que j'aime, c'est en fait la forme n'était pas bonne, entre guillemets, et du coup, l'objectif, donc le fond, c'était quoi? C'était de trouver un client, en tout cas, qui sponsorise ta newsletter. Donc ça a été le cas, objectif atteint.
Bien sûr, en fait, et c'était plus par... En vrai, pour le coup, c'est pas, d'un point de vue commercial pour moi, ce sont des revenus passifs, donc c'est toujours intéressant pour moi. Mais d'un point de vue aussi client, c'est un espace qui est intéressant. Et en fait, pourquoi ça ne fonctionnait pas non plus, c'est parce qu'en fait, il y a pas mal de gens qui ont sponsorisé diverses newsletters. Parce que je sais, je suis un peu dans le game. Je sais qu'il y a plusieurs clients qui ont sponsorisé diverses newsletters et qui n'ont pas eu assez de résultats. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, et ça, on pourra peut-être en parler un jour, mais il faut savoir que aujourd'hui, le one shot sur de l'influence ne fonctionne plus. Le one shot sur de l'influence ne fonctionne plus. C'est assez hérité de l'ancienne influence, et en fait depuis, en plus tous les scandales qu'il y a eu avec les influenceurs télé-réalité, du coup qui s'est déversé sur tous les influenceurs, etc. Ça a été compliqué, et du coup les campagnes one shot ne fonctionnent plus parce qu'on n'a plus cette confiance aveugle, et on l'a encore moins sur des outils comme la newsletter ou comme LinkedIn où ce sont des professionnels qui les lisent. Et donc effectivement, les campagnes one shot ne fonctionnent plus, donc moi c'est ce que je proposais, et donc tout le monde n'était pas en capacité. J'ai même refusé un client sur la newsletter récemment, avant que je sois sponsorisée par Time, parce qu'en fait il me disait, est-ce que on pourrait tester un numéro à sponsoriser. Je lui ai dit, écoute, je m'en fous, peut-être que je me tire une balle dans le pied en te disant ça, mais ça sert à rien. J'ai dit, en vrai, je préfère te dire non et ne pas que t'achètes pas, parce que pour moi en fait tu vas être déçu. Donc ça ne sert à rien en fait de sponsoriser qu'un seul numéro de newsletter. Ce qu'il faut aller chercher, c'est créer ce qu'on appelle un effet de top of mind aujourd'hui avec les marques, c'est-à-dire qu'en gros un ambassadeur parle régulièrement d'une marque, ce qui fait que les personnes qui suivent cette personne, quand elles vont avoir besoin de potentiellement les services de X ou Y logiciel en fonction de ce que tu promeux, vont penser à ce logiciel parce qu'elles ont vu passer une personne qu'elles aiment bien en parler plusieurs fois. Mais les campagnes one shot ne fonctionnent plus, ou plus très bien, ou pas sur tous les secteurs.
Et ça, c'est bien de le dire, parce que justement, t'as des gens qui peuvent écouter, qui peuvent se dire, ouais, je pense que tout est facile en fait, publier sur LinkedIn, faire un post viral, bienveillant, avoir des clients, c'est rapide, avoir un post sponsorisé, post newsletter, peu importe. Au final, non, ça prend du temps. Bon, il y a eu l'effet, justement, boule de neige avec ce que tu disais des influenceurs de la télé-réalité. Mais c'est bien de le dire aussi, parce que toi, tu es en place, tu as quand même beaucoup d'abonnés, tu as une belle visibilité. Tout n'est pas simple. On parle aussi d'échecs dans le sens que tu essaies de promouvoir, de plutôt sponsoriser ta newsletter. Ça ne fonctionne pas comme tu le voudrais dès le départ, même si à la finalité, si. Donc ça, c'est plutôt cool, le message que tu envoies. Et aussi de dire que voilà, ça se fait de telle façon et qu'il faut que tu sois aussi à l'aise avec tes convictions. Question qui n'était pas prévue, mais qui me vient comme ça. Qu'est-ce que tu penses de ça, justement ? Newsletter sponsorisée, des posts sponsorisés, donc que des marques vont te solliciter pour faire un post et promouvoir leur marque sous forme de storytelling ou autre. Bon, toi, j'imagine que tu es très à l'aise avec ça. Moi, j'en fais également des posts sponsorisés. Qu'est-ce que tu penses des gens qui critiquent ça, justement ? Je te parle professionnel, hein, je ne parle pas justement du petit jeune qui est là pour rien dire et simplement faire un commentaire haineux. Je parle vraiment des gens qui n'apprécient pas cette manière de faire. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur répondre aujourd'hui ?
Bah, qu'ils n'apprécient pas, c'est leur problème, mais les gens font ce qu'ils veulent. En fait, ça, là-dessus, tu n'auras pas mieux que de ma part. Hein. C'est qu'en vrai, il faut tout pour faire un monde, y compris des personnes qui ne soient pas d'accord avec ça. Toujours est-il que je trouve ça quand même un peu fort de café, quand même, de critiquer ce format, sachant que tu as des personnes qui donnent des conseils gratuitement toute l'année, quand tu peux avoir une rétribution, sachant qu'en plus, l'avantage, entre guillemets, d'être un influenceur et un entrepreneur, c'est que c'est pas notre cœur de métier. Donc, on n'accepte pas tout et n'importe quoi. Moi, il faut savoir que c'est ce qui me permet. Alors, moi, il faut savoir que l'influence n'a représenté que même pas 5% de mon chiffre d'affaires de l'an dernier. Donc, pour le coup, c'est aussi pour ça que je me permets de choisir scrupuleusement les personnes et les entreprises que je représente, parce que je sais que je vais faire de l'argent à côté. Je vais gagner ma vie autrement à côté, c'est un bonus. Et en fait, c'est aussi avoir une espèce de rétribution par rapport à tout le contenu gratuit que je diffuse 6 fois par semaine sur LinkedIn, 1 fois par semaine en newsletter, 3 à 4 fois par semaine en vidéo sur TikTok et Instagram. Donc, qu'ils aiment pas, c'est une chose, qu'ils critiquent, c'en est une autre. Mais après, ils pourront rien faire contre. Tant que c'est fait dans la légalité, aucun problème, en fait. Et après, si vous avez un problème avec ça, bah, vous avez un problème avec la publicité en général. Et donc, pourquoi faire de la publicité pour votre propre entreprise ?
Belle réponse. Et moi, il y avait quelqu'un qui m'avait dit justement, tu deviens influenceur. J'ai répondu, je suis chef d'entreprise depuis 8 ans et je suis uniquement là pour saisir les opportunités professionnelles. Surtout que ça correspondait notamment à mon activité, puisque moi, c'était les éditeurs de logiciels, mon entreprise spécialisée en prospection. Et là, c'était un éditeur de logiciels que j'étais en train de promouvoir. Mais c'est intéressant justement ce que tu dis. Et voilà, t'es pas content, c'est pareil, tu passes ton chemin et puis on passe à autre chose. Enfin, et comme tu dis, toute cette valeur que tu distribues au quotidien, tu l'as dit, 6 fois par semaine, des posts, ça demande du temps, de l'énergie. Tu as une stratégie éditoriale, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point il y a du boulot derrière. Et évidemment, ce n'est pas le marché de Rungis, ce n'est pas un boulot physique, entre guillemets, mais psychologique, l'inspiration, vraiment chercher un petit peu tout le temps les idées, ce n'est pas évident, surtout que la concurrence, elle monte dans le sens où tu as souvent des nouveaux arrivants, de nouveaux arrivages, entre guillemets, surtout après les fêtes ou après les congés. Donc, il faut tout le temps se renouveler, même si, comme tu dis, voilà, tu es déjà en place, on ne sait jamais. Il peut y avoir d'autres personnes qui arrivent et qui prennent une place monstrueuse. Donc, c'est quand même du boulot. C'est un vrai boulot. Et merci à toi pour ton partage sur ça. On va parler de... On continue, du coup. Tes e-books. Je dis tes e-books, mais on va parler là de ton premier e-book, parce qu'on est sur la thématique des premières fois. Tu en as eu 2, hein, je crois, des e-books. Tu pourras nous en parler tout à l'heure. Comment ça t'est venu ? Est-ce que parce que tu as vu d'autres personnes le faire ? Est-ce que c'était vraiment quelque chose qui émanait de toi et c'était puissant ? Tu as envie de vraiment marquer un petit peu ta pierre et qu'on se souvienne de toi ? L'e-book, j'imagine que ce n'est pas uniquement une stratégie business, entre guillemets, parce que c'est surtout pour être impactant. Dis-nous un petit peu, justement, comment tu l'as vu, ce premier e-book.
Alors non, ça vient pas de moi. Hein. J'ai pas du tout inventé le format d'e-book, hein, tu t'en doutes bien. Est-ce que je me suis particulièrement inspirée ? C'est une bonne question. Je ne sais plus si j'ai eu une personne qui a été un déclenchant ou pas. Mais en tout cas, ça a été le côté diversification. Non, je sais, je me rappelle de ce qui a été le déclenchant. C'est qu'en fait, il faut savoir que je vends de la stratégie de communication. J'ai 10 ans d'expérience, je suis passée par des grands médias, je suis passée par des grosses agences, donc je ne suis pas la moins chère. Ce qui fait que j'ai souvent des refus de devis par des personnes qui, en fait, comme en plus... Alors, pardon, c'est un petit peu décousu parce que je suis hyperactive, donc j'ai plein de flots de pensées qui arrivent en même temps, c'est toujours difficile, les TDAH. Donc... Effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes qui ne pouvaient pas se payer mes services. Et donc, je me suis dit, ça peut être un premier pas vers mes services pour les personnes qui voudraient vraiment bosser avec moi, mais qui n'ont pas le budget. Et où est-ce que je voulais en venir ? Voilà, c'est ça le problème aussi. Où est-ce que je voulais en venir par rapport à ça ? Eh bien, il y a le côté, donc effectivement, premier type de poste aussi, enfin, premier type de découverte, en fait, pour ces personnes-là, de mes accompagnements. Il y a aussi le côté, revenu passif. C'est-à-dire qu'en fait, bon, après, pareil, hein, attention, on va démystifier un petit peu. C'est-à-dire que moi, j'ai vendu pas mal de mes e-books, mais c'est pas comme si tous les jours, en fait, il y a des ventes de mes e-books. C'est pas comme si ça me faisait 10 000 balles de revenus passifs par mois. Hein, attention. Hein. Mais effectivement, je me suis dit aussi que c'était un autre terrain de jeu. J'avais envie de tester de nouvelles choses. J'avais envie de tester de nouveaux formats pour voir si je pouvais aller sur ce terrain-là aussi, pour le côté un peu plus passif, le côté un peu plus publié, entre guillemets. Voilà, ça a été un mélange de plein de choses qui, en fait, m'avait fait me dire « Ouais, vas-y, on y va ». Il faut savoir que je suis assez fonceuse comme personne et comme personnalité. Et du coup, généralement, j'agis et je réfléchis après. Même si je suis très stratège, et du coup, c'est ça, encore une fois, c'est toute la dichotomie de ma personnalité, c'est que j'ai un côté très strat, mais parfois, quand j'ai un projet et que je le kiffe, au lieu de me dire « Ouais, je vais voir, etc. », généralement, je me dis « Allez, feu, on y va ». Et voilà, c'est ce qui s'est passé.
Et j'aime bien justement cette approche-là. On y va, on passe à l'action, puis on ajustera et on peaufinera au fur et à mesure. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir une meilleure idée que tout le monde et puis de ne jamais passer à l'action. Donc toi, ce que tu fais, c'est tout l'inverse. Donc c'est plutôt cool. Et je dois dire qu'un de tes e-books, d'ailleurs, je l'ai acheté. C'est au niveau de la newsletter. C'est même grâce à toi que j'ai pu, et je le dis en toute transparence, lancer ma newsletter. J'ai pris quelqu'un après pour m'aider, pour non pas l'écriture, parce que j'aime beaucoup écrire mes posts et garder un petit peu cette personnalité, cette folie intérieure, entre guillemets. Et c'était hyper important, mais juste vraiment pour le cadrage. Et c'est une personne aussi formidable qui m'accompagne au quotidien, Alexandra, que j'apprécie beaucoup. Et ce que je voulais dire par là, c'est... Tu parlais d'inspiration aussi tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a inspiré ou autre ? Moi, j'ai vu pas mal de choses circuler sur les réseaux. Tu peux trouver des formats intéressants aussi sur YouTube. Mais ce que je veux dire, c'est que tu donnes confiance par rapport à ce que tu délivres au quotidien. Et tu as envie d'aller vers une personne, tu as envie de payer un certain montant, entre guillemets, que ce soit 20, 40, 80 euros, parce que derrière, tu sais qu'il va y avoir peut-être... Non, c'est pas du récurrent par rapport à ce que tu postais d'habitude. Au contraire, il y avait vraiment des tips qu'on ne trouvait pas dans tes contenus gratuits. Ce que je veux dire par là, c'est voilà, tu sais que tu peux faire confiance à la personne. Et ce que j'aime aussi dans ton analyse par rapport au fait de lancer un petit peu cet e-book, c'est j'ai une offre qui est un peu chère. Donc, ça veut dire que tu cibles, je ne sais pas, les gens qui sont prêts à mettre 3 000, 5 000 euros. C'est juste un exemple. Et là, tu reviens un petit peu plus bas avec une offre plus adaptée. Où tout le monde, entre guillemets, peut avoir accès à cette offre-là. Donc, c'est une vraie stratégie parce que tu en as qui ont une offre, une seule, qui se disent, c'est comme ça. Au final, je pense que tu n'as qu'une seule offre, mais tu l'as découpée pour faire en sorte que ça puisse toucher tout le monde, tous les acheteurs, quelque part.
Ah, mais c'est... Tu me fais prendre conscience d'un truc, Alexandre. Merci pour ça. Déjà, merci pour tous tes jolis retours. Merci pour ta confiance. Et merci pour ça, parce que c'est vrai qu'en fait, quand on y réfléchit, mon offre principale, c'est le contenu web. Et en fait, après, je l'ai découpé de différentes manières, stratégie, création de contenu, coaching autour du contenu, etc., etc. Donc, ouais, c'est tout à fait ça. Et c'est ça que je voulais dire, où j'ai perdu le fil à cause de toutes les pensées qui arrivent. C'est qu'en fait, quand tu es en stratégie de communication et en contenu, comme c'est très facile de se créer un compte sur les réseaux sociaux, on imagine que c'est très facile de créer du contenu sur les réseaux sociaux et que tu vas mettre un post LinkedIn et que tu vas voir 1 000 prospects par mois et qu'en plus, tu vas tous les closer et que tu vas devenir millionnaire. Et en fait, malheureusement, ça se passe rarement comme ça. Et en fait, c'est pour ça aussi que j'ai créé ces petits e-books parce que c'est un premier pas pour les personnes qui sont pas très aware, pardon, c'est mon côté Jean-Claude Van Damme, qui en fait ne sont pas très au fait de la stratégie de communication, que c'est important qu'on ne se lance pas en communication sans stratégie, que derrière toute bonne publicité, toute bonne campagne de pub, derrière toute bonne campagne de communication, il y a une stratégie, il y a des planners strat, toutes les campagnes Buzzman que vous aimez, les amis, ça part de cerveau de planners strat, hein, c'est le rôle qu'on a dans les agences. Et donc en fait, c'était un peu ça aussi. C'était un petit peu le côté, donc t'es pas prêt à dépenser effectivement 3, 5, 4, 5 000 euros dans mes accompagnements. Tu peux toujours commencer avec ce petit e-book-là. Donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Et d'autant plus que j'ai certaines personnes de ma communauté qui sont en Afrique. Et donc, il faut savoir que par rapport au taux de change, etc., je me suis dit que des accompagnements qui sont pricés en euros sont toujours plus difficiles d'accès pour certaines personnes par rapport à cette communauté-là. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant aussi de potentiellement leur proposer et proposer à toutes les personnes, même en Europe, etc., qui n'avaient pas forcément les sous de pouvoir acquérir un peu de mon savoir à moindre coût.
Ouais, c'est bien. C'est plutôt cool. Des gens qui ne pourraient pas avoir accès à tes services en temps normal, entre guillemets, comme tu dis, avec... cet e-book, c'est possible. J'aime bien ce que tu véhicules, ce qui véhicule de cet épisode. On avance du coup, on continue avec des choses un petit peu moins sympas que tous les entrepreneurs rencontrent à un moment donné, parce que ceux qui boivent du champagne et qui roulent en jet privé, bon, je pense que sont des menteurs, des affabulateurs ou des vendeurs de trompettes, comme je les appelle. Donc, c'est tes premiers doutes, ces premiers doutes que tu as pu avoir en tant qu'entrepreneuse, parce qu'on en a tous, même au bout d'un mois d'activité, un an, cinq ans, voire plus, 10 ans. Donc, ça fait, je crois, 5 ans que tu étais, enfin, que tu es à ton compte, 5 ans que tu entreprends plutôt. C'était quoi ces premiers doutes et surtout comment tu les as gérés?
Les premiers doutes, mais je crois qu'ils étaient genre le lendemain, même pas, genre une demi-heure après d'avoir cliqué sur le site de l'URSSAF pour créer mon auto-entreprise. Parce que du coup, moi, j'ai fait presque 4 ans d'auto-entreprise avant de lancer mon agence, et mon agence a un peu plus d'un an aujourd'hui. Ouais, même pas, je pense que 30 secondes après, non. Comment je les ai gérés, aucune idée, parce que c'était il y a longtemps, du coup c'était il y a 5 ans, mais comment je les ai gérés, je pense que comme d'habitude j'étais en mode on verra, et voilà, faut savoir que je navigue beaucoup à vue, ce qui a parfois des avantages et aussi des inconvénients, hein, bien sûr, mais ça a cet avantage de se dire en fait un peu balasco dans les brosières fous du ski, j'y vais mais j'ai peur, mais j'y vais. Mais sauf que je me suis pas pris de coup de bâton sur la tête, heureusement, ni cassé le bras. Mais effectivement, pour le coup, comment je les ai gérés, je pense avec ce que j'ai fait souvent dans ma carrière, c'est-à-dire faire du fake it till you make it. Et en fait, c'est-à-dire que pour ceux qui ne connaissent pas cet adage, c'est en gros feindre jusqu'à temps que ça arrive réellement. Donc feindre la confiance en soi jusqu'à temps d'avoir confiance en soi, surtout sur la confiance, ça fonctionne bien. Feindre les compétences jusqu'à temps que tu les acquières, etc., etc. Et donc, je pense que j'ai agi de la même manière. Et en fait, oui, tu reviens sur ce que tu disais. J'ai des doutes tout le temps. Enfin, j'ai eu 30 secondes après avoir créé mon statut. J'ai eu 30 secondes après avoir signé les statuts de ma SARL. Je les ai eu il y a 30 secondes aussi.
Est-ce que pour toi, c'est normal d'en avoir, justement, des doutes au quotidien?
Bien sûr, évidemment. Évidemment, ouais. J'ai tendance à dire qu'en fait, si tu t'inquiètes, c'est que ça te tient à cœur. Donc c'est bien de pas se laisser bouffer par le doute. En fait, c'est bien d'avoir des doutes, mais ce qu'il faut pas, c'est se laisser bouffer par le doute.
Ouais. Parce que pour moi, différence.
Ouais, voilà, c'est ce qui la peur n'empêche pas le danger en plus, hein. Donc c'est pas parce que t'as peur que ça va pas arriver. Donc mais effectivement, pour moi, c'est obligatoire. C'est bien d'avoir des doutes. Faut juste en fait savoir les gérer.
T'as les doutes qui paralysent, comme tu dis, puis t'as les doutes qui t'empêchent pas, par rapport à cet adage que tu as dit notamment, d'avancer, et puis d'exceller après dans ton domaine. Ok, on arrive à la fin de l'épisode. Je suis toujours triste à la fin des épisodes, encore plus quand je suis avec une invitée comme toi. Moi, je bois les émotions des gens. Et c'est pour ça que j'adore ce que je fais, j'adore mon métier. Je ne vis pas du podcast aujourd'hui, mais j'aime les personnalités. Toi, j'ai fait Mélissa Ousmane aussi, vous êtes complètement différentes, amies, associées aussi ensemble, mais toi, je ne te connais pas non plus. Je ne te connaissais pas, en tout cas, plus en détail, mais à travers, en tout cas, ces épisodes, j'apprends à mieux découvrir mes invités, et c'est un kiff total. J'adore, et je sais pourquoi je fais ça. Donc, merci à toi, encore une fois, d'avoir été mon invité aujourd'hui.
Merci à toi, Alexandre, vraiment, c'était super, cet échange, et comme beaucoup de choses qui sont agréable, c'est passé très vite.
Est-ce que je peux te faire une blague pourrie et te dire, tu peux nous faire un petit cadeau avant justement de nous quitter et nous dire ce que tu conseillerais à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat avec tout ce que tu nous as déjà dit, hein, cette valeur que tu nous as partagée. Quelqu'un qui a des doutes, qui ne sait pas vraiment s'il doit se lancer ou pas, peu importe le secteur d'activité, qu'est-ce que tu lui dirais?
Franchement, je dirais bien sûr de considérer son environnement. Est-ce que c'est qu'on est sur quelqu'un qui a des enfants? Est-ce qu'on est sur quelqu'un qui a des revenus à côté et qui peut aussi pallier à ça? Parce que c'est bien gentil, hein, de dire oui, lancez-vous, on ne se lancera pas quand on sera mort. Mais parfois, il y a des situations de vie qui font qu'on ne peut pas prendre de risques. Donc, évaluer bien sûr les risques en fonction de ce que vous souhaitez faire, parce qu'en plus, il faut savoir que c'est beaucoup plus facile de se lancer dans l'entrepreneuriat quand on est dans le service par rapport au produit, parce que nous, on n'a pas de stock, on n'a pas d'achat à faire au départ, il faut juste vendre, entre guillemets, ses services, donc il y a de ça aussi. Donc, pour le coup, je vous conseille déjà de considérer votre situation actuelle pour voir si c'est possible ou pas, ou est-ce qu'il faut un business plan un peu plus chiadé, potentiellement peut-être un prêt professionnel dès le départ, hein, parce que c'est possible aussi pour certains qui se lancent. Mais surtout, évidemment, si je parle à une personne qui a toute la configuration et qui lui manque juste l'impulsion parce qu'elle a peur, dans ces cas-là, je dirais vraiment, si ça te taraude autant, essaye. C'est pas définitif. Rien n'est définitif dans la vie. Tu peux très bien être entrepreneur pendant un an et redevenir salarié. Tu peux très bien être salarié pendant 10 ans et être entrepreneur pendant 10 ans et après, je sais pas, prendre ta retraite parce que t'as réussi à faire fortune ou je sais pas quoi. Dans tous les cas, rien n'est irréversible. rien n'est définitif. Donc, lance-toi au départ si les conjonctures sont bonnes dans ta conjoncture personnelle, et puis tu verras.
J'aime bien ce que tu dis, parce que la plupart de mes invités, justement, disent « ose, vas-y, fonce, tu verras, c'est plus beau, nanana ». Et c'est des très, très bons conseils. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment des conseils de motivation. Toi, bah, tu l'as dit aussi, tu es quelqu'un pragmatique, donc on est vraiment dans le pragmatisme, dans le sens « faites attention à la gestion des coûts, de ce que ça va vous coûter », et surtout de prendre en compte sa situation personnelle, enfant ou autre. Et ça, je trouve ça bien comme conseil. Tu vas croire que je te fais que des compliments, mais ce que je veux dire, c'est que c'est hyper important, parce que c'est une notion dont on n'a pas conscience quand on est lancé. Parce que si on est en couple et que la personne n'est pas dans l'entrepreneuriat, je ne dis pas qu'elle ne peut pas nous comprendre, mais il y a une vraie communication à avoir et à faire avec elle. Donc, je trouve ces conseils hyper importants, et je pense qu'ils seront utiles en tout cas aux gens qui nous écoutent avant de se lancer.
Merci beaucoup, Alexandre. Tu me flattes.
Ouais, mais c'est sincère, vraiment, vraiment sincère. Et puis, je te remercie encore et te dis à très, très vite, en tout cas, si tu es d'accord, pour revenir, un de ces quatre, ici, chez nous, sur le podcast.
Quand tu veux. Avec plaisir. Merci à toi, Alexandre, pour l'accueil et pour toutes ces questions ultra pertinentes.
C'était très cool. Et n'hésitez pas à suivre Juliette Cadeau, C-A-D-O-T, non pas comme un cadeau de Noël. Donc, voilà, sur LinkedIn, ailleurs, partout, TikTok, Instagram. Merci encore à toi, Juliette. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur.